Dans cet épisode du podcast Genre en Afrique centrale, Monsieur Jojo revient sur son expérience en tant que leader communautaire et personne transgenre au Cameroun, sur le manque de visibilité de sa communauté et sur les violences subies par les minorités sexuelles et de genre. Attention, dans cet épisode, nous abordons des thèmes liés aux violences physiques, aux violences sexuelles et au suicide. Ces propos pourraient déclencher des émotions ou des souvenirs douloureux. Si vous vous sentez mal à l'aise, à tout moment, nous vous encourageons à mettre en pause l'épisode et à chercher du soutien auprès de personnes de confiance ou de professionnels de la santé mentale. Merci de votre écoute et de votre solidarité.
Je suis Monsieur Jojo, je suis responsable des violences basées sur le genre, violences faites sur les personnes trans. Donc, ma responsabilité est de documenter et répertorier les cas sur les personnes trans au niveau du Cameroun, et je pense que dans les mois à venir, dans l'Afrique centrale également. Je suis trans-homme et leader communautaire au Cameroun, et j'interviens beaucoup plus au niveau national et au niveau de la sous-région Afrique centrale. Je suis bénévole au RITAC, et au quotidien on se bat pour faire développer et structurer les organisations trans au niveau de l'Afrique centrale. C'est Théo qui est arrivé avec cette initiative de mettre sur pied un réseau pour les trans de l'Afrique centrale. Donc au départ, c'était uniquement des organisations, étant donné que le RITAC était mis sur pied. Son objectif n'était pas de venir piétiner le travail des organisations, mais de les accompagner, de les structurer. Pratiquement, il n'y a pas des organisations trans dans les autres pays. En tant que personne trans, je suis cette personne qui est en avant, qui a la voix de ces personnes qui ne peuvent pas parler. Donc, en tant que leader, c'est déjà si une personne trans a un problème, peut-être d'arrestation ou de détention arbitraire, qui a un problème de rejet familial, de bastonnade et tout, on va m'appeler. Est-ce que je ne me mets pas en danger? Ah, c'est vrai qu'au quotidien, je me mets en danger, parce que lorsqu'une personne trans, en général, moi, j'accompagne les LGBT en général, mais spécifiquement, ce sont les personnes trans. Donc, lorsqu'une personne LGBT est arrêtée, je ne sais pas ce qui m'attend devant. Ou lorsqu'une personne LGBT a été bastonnée ou séquestrée, violée, lorsque je vais sur le terrain, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, au quotidien, je vais dire, je suis sur le feu. Je vais dire, je suis exposée au danger au quotidien. Parce que je ne peux pas voir une personne trans qui a été peut-être rejetée par sa famille et que j'ai une chambre. Parce que par moment, dans ma chambre, on se retrouve à 7, 8, 10, 10 personnes. Je sais ce que ça fait d'être dans la rue et n'avoir pas de personne qui peut t'épauler. Ça arrive pas pour moi que ce sont des mineurs. Du coup, le fait d'héberger peut-être un ou une mineure à la maison, je m'expose. Le fait peut-être que quelqu'un soit rejeté en tant que personne trans et se retrouve chez moi, c'est pratiquement la même chose. Étant donné qu'il y a les familles, il y a les familles qui revendiquent souvent le fait que on me voit avec X, Y, Z, parce qu'à la fin, c'est comme si c'est moi qui entraînais ces personnes-là à être ce qu'elles sont. Donc, ils ont ce mot qu'ils ont l'habitude de me donner, professeur de lesbianisme. Au quotidien, c'est un gros danger, mais si on ne le fait pas, qui va le faire? Endosser cette responsabilité, c'est vrai que ça pèse. Psychologiquement, ça pèse. Parce qu'on te prend comme un leader, mais tu as l'impression que tu ne peux rien faire. Je vais prendre l'exemple des personnes trans qui sont des personnes LGBT qui sont arbitrairement arrêtées. Lorsque j'arrive dans les compagnies, brigades ou commissariats, généralement ce que j'ai à dire ne pèse pas. Je trouve une fille lesbienne que lorsqu'on découvre son orientation sexuelle, c'est sa propre maman qui a payé des gaillards, des gros bras pour violer sa fille, pour l'apprendre à aimer par exemple le pénis. Qu'est-ce que tu fais face à cela? C'est vrai que tu vas l'accompagner, mais tu ne vas pas enlever ce qui a été fait. Donc, au quotidien, ça pèse, que ce soit psychologiquement et que ce soit financièrement également. Parce que généralement, quand on est dans la rue, on n'a rien, on n'a pas d'aide, on n'a pas de ressources pour tenir. En 2009, je vais avoir 20 ans, je faisais terminal. Dans ma famille, on n'avait pas eu à soupçonner cela parce que j'ai grandi avec l'expression de genre masculin. J'ai grandi avec cette expression. On me voyait jamais en jupe, on me voyait jamais en robe, Donc, du coup, ça ne causait pas de problème à la famille. Je pense que la toute première fois où ce problème a commencé à se poser, c'est lorsqu'il y avait eu un problème de meurtre au Cameroun où une footballeuse a poignardé sa copine parce que sa copine l'avait trompée. Donc, et cette période, je jouais au ballon et mon papa était devant la télé. Et le journaliste, à la fin, et toutes les footballeuses sont lesbiennes. Donc, ça a commencé à attirer l'attention de mon papa dessus. On a commencé à me surveiller, c'est vrai, et tout, et tout. Mais je réussissais toujours à m'en sortir. Et également, une de mes partenaires qui m'a dévoilé aussi également au grand jour, parce que je devais faire le bac, je devais composer le bac, et elle était assez possessive. Donc, je lui ai dit, j'ai besoin d'une pause. Pour elle, c'était que je devais l'abandonner, et tout. Donc, je ne sais pas comment elle a eu le contact de mon papa. C'était un dimanche, elle a appelé, ils sont allés au rendez-vous. Je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. Elle m'appelle, elle met le haut-parleur. Donc, on faisait notre dispute de couple, et lui, il écoutait. Que 30 minutes après, j'entends seulement un coup de pied sur la porte, bam, bastonnade et tout. Cette période-là, j'ai les cicatrices partout sur moi parce que plus tard, quand je suis même revenue, mon père a porté la machette sur moi. Si je me déshabille, il y a les cicatrices partout, derrière le dos, au pied. Parce qu'il a dit, je t'ai donné la vie et je vais la reprendre. Et aussi, j'attendais mon visa pour l'Allemagne. Je faisais les cours d'allemand au Goethe-Institut à Bastos. C'est étant dehors que j'ai eu des nouvelles, que lui, il m'informe que mon visa est sorti, mais que si je vais en Allemagne, je serai lesbienne internationale. Donc, lui, il a tout déchiré, il avait confisqué toutes mes choses. J'ai eu la chance qu'en sortant de la maison, j'avais pris un sac, il y avait un livre d'allemand, il y avait mon acte à l'intérieur. Donc, c'est où j'étais sortie, j'avais pu faire ma carte d'identité. Depuis 2009 à ce jour, c'est plus jamais vu. C'est vrai qu'il envoie des gens m'appeler parce qu'il a dit où il me voit, il va me cogner à la voiture. Donc, pour lui, c'est qu'il doit me tuer. Jusqu'aujourd'hui, il n'arrête pas d'essayer. Il teste souvent les femmes qui m'appellent. Et quand je comprends que c'est la famille, lorsqu'il dit qu'il va lui dire qu'il est encore très jeune et qu'il ne peut pas m'avoir, c'est où il prend le téléphone, il commence à m'insulter et tout. Donc, lui, il n'est pas fatigué en tout cas. En 2009, je ne connaissais même pas qu'il y avait l'existence des organisations LGBT. Vraiment, j'avais l'impression d'être le démon qu'on disait. On n'arrêtait pas de dire que c'est le démon, démoniaque. Ça m'arrivait par moments d'aller à l'église dormir. Je priais en fait que hein, je suis démon, pourquoi je suis bizarre. On me dit que c'est ça. J'ai passé, je vais dire, 2009-2010 dans le noir. Je vais dire dans le noir parce que j'avais même essayé de me suicider à deux reprises. Je suis en train de parcourir Facebook, je vois lesbienne Cameroun. Et je ne connaissais même pas encore que j'étais trans d'ailleurs. Mais pour moi, c'est que lorsque tu parlais de moi en femme, c'était tout un problème. Mais je ne connaissais vraiment pas encore l'expression trans en ce moment-là. Je vais à Douala, je crois que cette période, j'ai rencontré Maître Alice Com, j'ai rencontré Mariama Mirsen de Kuen, la fondatrice de Kuen, Kuen African Young Network. Elle voyait comment faire pour déjà entrer en possession de mes documents. Elle voulait qu'on porte même plainte à mon papa. Mais avec le temps, j'ai demandé de laisser, je suis dehors, je peux me battre. Et c'est comme ça que j'intègre dans El Cameroun en tant que père éducateur. Et c'est vrai aussi qu'à Douala, j'assistais des personnes LGBT qui étaient arrêtées. Et je ne sais pas comment, mais par la suite, comme on me traitait de professeur de lesbianisme, pour moi, je me dis que mon arrestation en 2018 avait un lien avec cela. Un jour, quand je travaillais au chantier, je rentre avec un de mes enfants que j'hébergeais à la maison. On était au chantier, on faisait la maçonnerie. Au retour, on voit deux gendarmes sur la moto qui n'arrêtent pas de nous suivre. Donc, lorsqu'on ralentit, la moto ralentit, on avance, la moto avance. Je pense qu'on avait décidé de s'arrêter dans un bar. Et ça n'a pas mis long, j'étais dans un snack LGBTI au niveau de Douala. C'était la nuit du 8 mars. Je sors pour acheter la cigarette. À peine j'entre, il y a un monsieur qui me suit, il est en civil. Il me dit, présente-toi. Moi, je vois quelqu'un qui est en civil devant moi. Je dis, mais comment je vais me présenter? Et puis, il me dit, mais l'ami, tu ne me connaissais même pas qui tu es. Dis-moi qui tu es, comme ça, je vais me présenter. À peine j'ai dit ça, je reçois une claque. Je dis, mais comment je te demande de te présenter, tu me claques. Il me claque encore. Je vais aux toilettes, j'allume mon téléphone, la lumière est claire un peu. Il vient, il guette, il rentre. Le téléphone s'est encore éteint vu que la batterie était off. Je ressors, je me dis, non, peut-être j'ai fait, il est parti. Quand je veux sortir, il est devant la porte, il me pousse. Il dit, mais on a un problème. Je reviens encore, il me repousse. Donc je vais maintenant faire la force pour sortir. C'est où il me racle, je tombe. C'est au moment qu'il me met au sol, il commence à me donner les coups de poing. Et je vois quatre gendarmes entrer. Il me dit, il faut l'amener. Et je dis, on m'amène, non, je vais où? Je ne peux pas bouger, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas le pourquoi, je ne sais pas où vous m'amenez. Moi, je ne bouge pas. Ils ont usé de la force. C'est vrai que moi aussi, je me débattais. Je ne voulais pas qu'on m'amène. Donc, si mon pied pouvait pousser l'autre qui tombe là-bas, ça poussait. Et je lui dis, mais je me suis fait agresser par un individu. La gendarmerie arrive, au lieu de me protéger, se met à me bastonner. C'est où il me dit, tu as ta carte, je sors la carte, je monte et tout. Le commandant dit, d'accord. On monte dans la voiture. C'est lui qui me porte dans sa voiture personnelle. On arrive à la compagnie. Je descends, puisqu'on m'avait mis à déchirer tous les habits. Donc, je viens m'asseoir près de lui. Je vois le commandant passer. Il dit, il faut l'entendre. Pour rébellion, refus de décliner son identité, homosexualité, violence sur autorité. Il dit, mais c'est moi qui vais porter plainte. Lui-même, il pose des questions. Lui-même, il répond en écrivant. Il pose, lui-même, il répond. Après, il me dit, signe. Il dit, je signe quoi? Je signe quelque chose que je n'ai pas lu. Il me donne, lis alors. Je me rends compte qu'il dit que j'étais sous l'effet de l'alcool. Étant sous, j'ai bastonné les hommes en tenue. J'ai déchiré leur tenue. Il dit que, mais je ne peux pas signer ça. C'est où il me dit que, ok, si tu ne veux pas signer, il faut libérer ton sac, tu vas là en cellule. Autant mieux même encore, les sept filles se prostituent que toi qui es lesbienne et enseigne les autres le lesbianisme. Il m'a envoyé en cellule avec des hommes là, aux toilettes. Il n'y a même plus de place parce que quand j'étais même debout, j'étais sur des garçons qui étaient couchés aux toilettes là et tout. Le matin, je sors. Ils envoient le gentil policier maintenant. Il vient m'amadouer pour que je signe. Je dis, je ne peux pas signer. Je ne reconnais pas ce qui est écrit là-bas. Donc moi, je ne signe pas. Après, il dit que, ok, on te donne la feuille, donc tu fais ta propre déclaration. Il dit que non. Même jusqu'à là, je n'ai pas la tête à écrire réellement ce qui s'est passé. Et j'ai besoin d'être assistée. Ils ne voulaient même pas que j'appelle. Donc, pour eux, c'était que je me retrouve à la prison centrale de Nouvelle avant que les gens ne soient au courant. Parce qu'au Cameroun, on dit qu'entrer facile, c'est sortir qui est compliqué. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'on sort, le chauffeur qui m'a mené au parquet a oublié certains documents. Quand il sort, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. On m'amène au parquet de Nocotine. Il me demande, tu as un numéro où je peux appeler. J'avais le numéro de, j'ai donné le numéro de Peggy de El Cameroun. C'est où ils m'ont amené au parquet, c'était autour de 9h. C'est vers 15h que les Peggy est arrivé, Tilebo est arrivé, les Maximilien Gombe sont arrivés et tout. Et ils ont pu quand même me faire sortir de là pour que j'attende mon procès en liberté. C'était autour de 20h. Et on me dit qu'on m'avait même jugé coupable. Donc du coup, je n'étais même pas allé. Le jour de ma sentence, m'est allé ça de manière que je ne parte même pas. Les gens me taquinent même dans les organisations depuis que tu es fugitif. Mais sinon, le quotidien est quand même compliqué, que ce soit les bailleurs qui ne veulent pas les personnes bizarres dans leur domicile, que ce soit licenciement abusif, les employés qui ne veulent pas les personnes bizarres dans, au sein de leur boulot. Et on a laissé le message que les lesbiennes ne vivent pas dans les quartiers ici. Allez vivre ailleurs. On m'a relogé ici au niveau de Bobogo, où actuellement c'est un militaire qui dit maintenant qu'il va me taper. Hormis cela, ce sont les attaques du Facebook. Quelqu'un qui va jusqu'à m'identifier que tu es sorti en noir aujourd'hui. La personne n'a pas de profil. Je t'ai dit que toi, tu peux pas m'échapper. C'est peut-être à la capitale économique, c'est le même profil. Parce que où je travaille, il me disait que tu es à tel endroit, tu travailles. Un jour, je vais me décider, tu vas me voir. Je vais te violer, je vais t'apprendre à aimer le pénis. C'est un peu fatigant à la limite par moment. Malgré que je m'en vais toujours défendre les personnes arbitrairement arrêtées, je fais beaucoup plus profil bas. Parce que j'ai d'abord une condamnation qui est en cours. Donc avec j'arrive, quand ça veut tourner un peu au vinaigre, je me retiens. J'appelle d'autres personnes. La population, c'est beaucoup plus des injures. On va vous corriger, surtout avec le sextape de l'ex-capitaine des Lyonnais indomptables, Gaël. Maintenant, c'est comme ça qu'on nous appelle de Ngalamote, tout ça. On va vous traiter un jour, on va vous brûler. Vous n'allez plus exister, on ne veut pas de ça ici au Cameroun. Et moi, je suis quelqu'un qui, je vais dire, en tant que défenseur des droits humains, je ne me cache pas. Même lorsque j'arrive souvent dans les commissariats, je leur dis, je suis Monsieur Jojo. C'est vrai que par moments, d'autres me chassent, ça fait rire d'autres. Ceux qui ont l'esprit ouvert, vraiment, deviennent amis par la suite. Donc les violences venant des forces de maintien de l'ordre, pour moi, à mon niveau déjà, je ne reçois plus cela. Mais c'est beaucoup plus la population et les inconnus. Les voisins interdisent tous leurs enfants. J'ai une petite fille de 6 ans chez moi. Elle a l'habitude de jouer avec les enfants, mais on a interdit aux autres enfants d'arriver à la maison. Enfin, que les enfants ne peuvent pas fréquenter un couple de lesbiennes. Cameroun, on connaît tout le monde est lesbienne ou gay. Ils ne connaissent pas. C'est vrai que Shakiro est venu avec ce thème de transidentité, mais pour d'autres, c'est que c'est de la folie, c'est la maladie, c'est la secte. Donc, ce n'est vraiment pas réel. Ça m'énerve que tous les gens me traitent de lesbienne. Par moments, j'ai l'impression j'ai envie de mal répondre. Lorsque je passe, on dit lesbienne et tout. Même le fait de dire, oh ma chérie, ma fille, oh, ça me heurte. Mais par contre, je me mets, je dis, bon, ils ou elles ne savent pas. C'est peut-être ce qui m'adoucit un peu. Mais c'est gênant au quotidien. Parce que toi, tu sais qui tu es. Mais à chaque fois, il te rappelle que ce que tu veux faire là, il faut laisser. Même dans ma propre communauté, j'ai mes ex-partenaires qui avaient l'habitude de me dire qu'après tout, tu es une femme. Des trucs comme ça. Mais je me dis que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance et la méconnaissance de ce que c'est que la transidentité. Ce que nous, on vit réellement, ce qu'on est réellement, ce qu'on subit au quotidien. Parce que c'est tellement compliqué, en fait. De chaque jour, vouloir revendiquer qui on est. À la limite, c'est fatigant et c'est choquant. Tu vas beau dire, oh, je suis. Ah, car laisse ça. Laisse ça. Et ce que tu as en bas, là, c'est quoi? C'est que les deux trucs que tu as devant toi, là, c'est quoi? Donc, du coup, c'est énervant. Je pense que j'ai toujours su que j'étais un homme. C'est peut-être le mot que je ne connaissais pas. Parce que j'avais des problèmes lorsqu'on me traitait de femme. Depuis toujours. J'avais les problèmes. Je pense même les jeux qu'on fait, les trucs, les jeux d'enfants qu'on fait, papa, maman. J'aimais moi toujours être papa. Donc, j'aimais tout ce qui était. C'est vraiment. C'est vrai que c'est sexiste, le fait qu'on dise que le ballon c'est pour l'homme, la voiture c'est pour l'homme, la poupée c'est pour... Mais j'ai toujours été de ce côté voiture et tout. Je crois que c'est en 2014 que j'ai vraiment compris qui j'étais. Je crois que c'était avec l'aide de Peggy de El Cameroun qui m'a édifiée. Et elle a vu que je me plaignais et elle comprenait ce que je ressentais. Parce que même quand on était en communauté, lorsque tu fais l'erreur de dire qu'elle est lesbienne, ça m'énervait. Quand je regardais la définition de lesbienne, c'était deux femmes. Donc pour moi, ça ne cadrait pas. J'étais toujours en train de revendiquer. C'est où Peggy m'a fait asseoir pour dire que bon, en fait, tu es trans. Voilà, trans, je vais te donner la définition. Tu me dis, je vais t'expliquer, tu me dis. Hein. C'est ça, ça, c'est moi. C'est exactement moi, ça. Que je n'étais pas fou. À force de ne pas comprendre, de pas comprendre ce qui t'arrive, tu as l'impression d'être vraiment l'erreur de la nature. Donc d'être ce démon-là. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est normal, mais on va te dire que c'est le serpent qui habite en lui, que c'est le démon. Donc, je me questionnais tout le temps, je suis donc qui? On dit que voilà les hommes sont comme ça. On dit que voilà les femmes sont comme ça. Moi, j'aime quand on m'identifie en tant qu'homme, j'aime tout ce qui a trait à la masculinité. Mais après, j'ai compris que, donc je suis normale. Il y a les gens comme moi qui existent, les gens nous connaissent, donc on sait qu'on existe. Ah, ça va. Donc, je n'ai qu'à travailler l'acceptation de soi et tout. Le reste va suivre. La mentalité camerounaise peut pousser au suicide. Parce que quelqu'un peut se mettre derrière son téléphone, balancer des mots, mais ne sait pas le style de flèche que le mot représente. Lorsque tu veux mener une sensibilisation positive, les Camerounais et les Camerounaises ne sont pas avec toi. Je fume beaucoup, je bois beaucoup. Et c'est pour ça que je vis constamment dans la dépression. La solitude, la cigarette et l'alcool. Ça, c'est mon mécanisme de défense. J'ai l'impression de suffoquer, de manquer d'air, quand je suis trop stressée et que je suis trop fâchée, c'est ce qui m'arrive constamment. Il faut vraiment que les pratiques changent, que les lois changent, que les mentalités changent également. Je vais casser les choses. Il y a les mentalités que j'ai envie de casser. Que je n'ai pas besoin d'être en tailleur femme pour venir. Donc je m'habille comme je suis, la personne que je suis un homme. En veste, j'ai ma robe là, quand j'arrive, bonjour monsieur le procureur, monsieur le juge. Mon rêve, c'est faire une transition, être qui je suis. Et avoir une famille. Je n'ai pas encore vécu ma propre vie à moi. Moi-même, je me pose la question de savoir quand est-ce que je vais sortir de cette comédie. Le fait que je joue le rôle des gens, mon propre rôle, c'est quand? Je rêve pas grand-chose, juste d'une famille et être moi-même, c'est tout.
C'est sur ce message alertant sur la nécessité d'agir pour défendre l'identité de genre que s'achève notre podcast « Genre en Afrique centrale ». Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage et à nous laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux. La semaine prochaine, dans un nouvel épisode, Raphaël partagera les motivations qui le poussent à défendre les droits humains en tant qu'activiste gay au Congo et évoquera aussi sa vision du féminisme. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.